Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Joyeux Noël tout le monde! Au moment que vous regardez probablement cette vidéo, on est le 24 décembre et pour Noël, j'ai décidé de vous offrir une vidéo très weird, mais un petit peu plus légère, je trouve. C'est une histoire qui n'a pas beaucoup d'informations. Fait que ma vidéo va être quand même courte, mais c'est pas grave, c'est le temps des fêtes. Profitez de votre famille. Ça fait changement des petites vidéos courtes parce que ces temps-ci, j'en fais quand même des très longues. Et bon, c'est une histoire qui a eu lieu au lac Michigan, dans un endroit qu'on appelle le Lake Michigan Triangle, donc le triangle du lac Michigan, qui ressemble beaucoup au triangle des Bermudes. On va en parler un petit peu plus tard, mais c'est vraiment un endroit, je dirais, mystérieux, dont on parle beaucoup. Mais je veux surtout vous parler de cette histoire-là. Puis c'est vraiment une des histoires de disparition les plus bizarres que j'ai racontées sur ma chaîne. Écoutez le podcast Over and Out. Avant de me lancer dans l'histoire, je veux vraiment vous parler de Stephen Kubacki parce que vous allez voir, comme moi, que c'est tout un personnage. Donc, Stephen a grandi dans l'État du Massachusetts et à l'université, il a décidé d'étudier les langues, mais éventuellement va changer dans une toute autre branche. Là. En fait, il a obtenu un doctorat en psychologie à l'Université du Nouveau-Mexique et ensuite, il va aller jusqu'en Allemagne pour poursuivre ses études en psychologie. Au moment des faits, Stephen a 23 ans. D'ailleurs, il est en train de poursuivre ses études au Hope College dans l'État du Michigan, donc il revient de l'Allemagne. C'est un gars qui est décrit comme étant cultivé, éduqué, ouvert sur le monde. Il est très très brillant, on le décrit comme étant free-spirited, donc il est libre et il est fan de Donjons Dragons. C'est aussi un gars de plein air, donc il aime beaucoup les sports extérieurs comme l'escalade en montagne, la randonnée et le ski de fond. Donc voilà pour Stephen, on le connaît un peu, voilà pour la mise en contexte, et maintenant passons à l'affaire. Donc c'est en février 1978 que Stephen décide d'aller faire du ski de fond près du lac Michigan. C'est un endroit vraiment qu'il connaissait très bien, là. Il était allé à plusieurs reprises. C'était rien d'exceptionnel, c'était même une activité plutôt routinière pour lui, lui qui connaît très bien le ski de fond, qui est habitué d'en faire, qui est passionné par le ski de fond. Et il était même supposé y aller faire du ski de fond durant le jour et rentrer le soir même. Bref, rien d'exceptionnel. Mais malheureusement, cette soirée-là, Stephen n'est pas rentré. Le premier article sur sa disparition a été publié le 21 février 1978 et ça disait « Recherche pour étudiants, la police de l'État est montrée en train d'embarquer dans un hélicoptère lundi à Holland pour retrouver l'étudiant du Hope College, Stephen Kubacki, qui est porté disparu. On a peur que Kubacki, de 23 ans, aurait pu tomber dans le lac Michigan durant le week-end. » On s'est rendu compte de la disparition de Stephen quand des amateurs de motoneige sont tombés sur ses skis de fond et un sac à dos près en bordure du lac Michigan. Ils ont immédiatement appelé la police pour leur faire part de leur découverte et ça n'a pas été long avant qu'on fasse 1 plus 1 et qu'on réalise que les objets retrouvés appartenaient au jeune étudiant disparu. C'est là que des recherches intensives terrestres et aériennes se sont immédiatement mises en branle. Et c'était plutôt étrange comme disparition parce que, encore une fois, je le répète, ben Steven, c'est un fervent du plein air. Il savait comment faire pour, pour faire du sport d'hiver à l'extérieur, mais aussi, il savait comment ne pas se mettre dans des situations dangereuses. T'sais, c'était pas du tout son style de disparaître ou de partir, de pas donner de nouvelles ou de pas s'amener des provisions. Bref, il était toujours très préparé et c'était plutôt inquiétant là, qu'il disparaisse comme ça. Et dès le départ, dans une situation comme ça, on peut facilement privilégier l'hypothèse de la noyade parce qu'on a retrouvé ses effets personnels près du lac, abandonné. Mais pour les enquêteurs, c'était pas... la théorie la plus plausible pour eux, alors que si on lit ça, un article là-dessus, on va se dire c'est probablement noyé ou il est mort de froid ou bon. Dès le départ, les policiers, les enquêteurs sentaient qu'il y avait affaire à une situation, comme j'ai dit, différente. En fait, ils ont envoyé ces informations dentaires à Chicago pour s'assurer que Steven Kubacki ne faisait pas partie des victimes non identifiées de John Wayne Gacy. Ça m'a quand même surprise de lire ça parce que John Wayne Gacy s'en prenait à des plus jeunes, là, je dirais à des adolescents, mais les policiers voulaient tout de suite éliminer cette thèse. Malheureusement, avec plusieurs semaines de recherche intensive sans réelle avancée au niveau des recherches, on en est venu à la conclusion que Steven a dû se noyer ou mourir de froid et qu'au printemps, probablement, on le retrouverait, on retrouverait son corps. Et ce qui est plus bizarre là-dedans, c'est que le dernier signe de Steven, c'était ses traces de pas qui menaient au lac. On voit qu'il marche un peu sur le lac, quelques traces de pas, puis plus rien. Il n'y avait pas de trou dans l'eau, il n'y avait pas de corps. Fait que c'est comme s'il avait marché au milieu du lac gelé, ou du moins en bordure du lac gelé, puis s'était évaporé. Toutefois, plus vite que l'on aurait cru, toute cette affaire va prendre une tournure des plus surprenantes. Plus d'un an après la disparition, soit le 5 mai 1979, un samedi soir, Steven se réveille au milieu d'une petite butte de gazon dans la ville de Pittsfield, au Massachusetts. Je ne sais pas si vous comprenez que l'endroit où il a été retrouvé, là, il a disparu au lac Michigan, dans l'État du Michigan, il est retrouvé au Massachusetts. On parle de plus de 1200 km. En fait, ça aurait pris 11 jours de marche pour faire cette distance-là à pied. On l'a quand même retrouvé un an plus tard, donc il aurait très bien pu faire cette distance à pied, là, facilement, et plusieurs fois même, mais ça explique pas comment il s'est retrouvé là. Il y en a même qui disent que de l'endroit où il a disparu jusqu'à l'endroit où il a été retrouvé, c'est une ligne droite parfaite. J'ai regardé, c'est pas vraiment une ligne droite là, parfaite, mais c'est tout comme. Donc maintenant, revenons au réveil de Steven. Il ouvre les yeux. Et là, il se souvient de rien. Il a comme fait un blackout. Il portait des vêtements qu'il ne reconnaissait pas, qui selon lui, n'étaient pas les siens. À côté de lui, il y avait un sac, comme un genre de cartable qui ne lui appartenait pas. Et à l'intérieur, il y avait des cartes du monde, des maps, et comme plein de pancartes faites à la main, des pancartes qui servent comme pour faire de l'autostop. Sur les pancartes, on voyait les noms de plusieurs villes, comme Sacramento, San Francisco, Reno, Chicago et Utah. Donc on parle vraiment de des villes et des États, là, l'Utah, qui sont complètement à l'autre bout du pays, là, à l'opposé extrême du pays. Et le plus effroyable dans tout ça, c'est qu'il ne reconnaissait rien de ce que contenait son sac. C'est comme si c'était pas à lui. Il y avait aussi 40$ en argent comptant, des nouvelles lunettes, des chaussures de sport et un t-shirt de marathon du Wisconsin. Et c'est fou parce qu'en se réveillant, en découvrant tout ça, il n'y avait aucune idée de combien de temps c'était passé. En fait, ça faisait combien de temps qu'il était endormi. Et il s'en est rendu compte quand il est tombé sur un journal, puis là, il a réalisé « Hey, ça fait plus d'un an que je suis endormi. Ça fait plus d'un an que j'ai perdu la mémoire. » Ça doit être complètement fou de réaliser que t'as perdu un an de ta vie puis tu sais pas du tout ce qui est arrivé. Donc, il a réussi, bon, à se lever, à trouver un téléphone, et il a fini par appeler sa famille et à même se trouver un transport pour se rendre chez sa tante qui habitait pas très loin. Donc, après un an, Steven était réuni avec sa famille, mais ça devait être complètement fou parce que, imagine, là, sa famille croyait qu'il était mort, il avait fait leur deuil, il avait même fait un memorial, donc un genre d'événement hommage à Steven. Il croyait qu'il était mort. Il y en a probablement qui avaient déjà fait leur deuil, qui avaient laissé cette histoire un peu derrière eux. Et là, lui, il se pointe comme ça, en vie, en santé, sain et sauf. Je sais pas si vous trouvez comme moi que c'est extrêmement weird. Ça me fait vraiment penser, en fait, c'est le même genre d'histoire que ma vidéo sur Danny Philippidis. Ouais, c'est ça. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. C'est vraiment le même genre d'histoire. Fait que ça me fait poser des questions sur, pas la véracité de cette histoire, mais la véracité de l'histoire de la personne disparue. On va y revenir. Mais c'est le genre d'histoire que j'adore. C'est mon genre d'histoire préféré parce que il y a un mystère. Il y en a beaucoup qui parlent de paranormal dans ces histoires-là. Le gars disparaît et réapparaît en vie saine et sauf. Fait que c'est comme une histoire.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hors de disparition qui finit super bien avec tout le mystère que j'adore. Fait que vous en jugerez comme moi, là, c'est quand même une histoire positive pour un 24 décembre, je trouve. Bien sûr, l'histoire de Steven Kubacki a été pas mal médiatisée parce que ça arrive jamais, là, un gars qui disparaît, qui réapparaît en se souvenant de rien avec des objets étranges. Je comprends que les médias s'en soient emparés sur le coup, mais bien vite, ben on a passé à autre chose, il y a eu d'autres nouvelles importantes, puis ben je comprends, tu sais, ça finit bien, fait que bon, on s'attarde pas trop sur cette histoire-là, mais quand même, les gens qui lisaient sur cette histoire se posaient, comme vous et moi, 1000 questions. Quand on lui a posé quelques questions, tu sais, comment il sentait, qu'est-ce qu'il croyait qui est arrivé, il a juste dit qu'il sentait qu'il avait beaucoup couru. Il avait couru pendant très longtemps. Selon ses dires aussi, il se rappelle juste du moment d'avant sa disparition. Il se rappelle d'avoir froid, d'être perdu et d'avoir vraiment peur. L'histoire a attiré les médias, ça je l'ai dit, mais étrangement, Steven voulait donner aucune entrevue. Il voulait pas parler aux médias, il voulait rien dire sur ce qui s'était passé. On lui a recommandé de voir un psychiatre parce que, selon lui, sa perte de mémoire était due à l'exposition au froid, à la peur. Mais il voulait pas consulter de psychiatre parce qu'il se disait « ben je vais bien mentalement, je vais bien physiquement, ben j'ai pas de raison d'aller consulter un docteur. » Et tu sais, même avant sa disparition, ça allait super bien. Il avait une copine en Allemagne, il réussissait bien, il avait un emploi qui était offert à lui, il avait des bonnes notes à l'école, il avait de l'argent, tu sais. Il y avait aucune raison pour se sauver de sa vie, si on veut. Mais là, il faut quand même parler de l'endroit où Steven a disparu parce que c'est un endroit en quelque sorte mythique, le lac Michigan. En fait, cet endroit est reconnu pour avoir été le lieu de plusieurs disparitions et autres phénomènes mystérieux. Fait que le lac Michigan, comme je vous ai dit, c'est vraiment comme le triangle des Bermudes. La première fois qu'on a mentionné le triangle du lac Michigan, c'est dans l'ouvrage de Jay Gourley en 1977, The Great Lakes Triangle. Donc, comme on peut voir sur la map, c'est vraiment là, dans le lac que ça se passe, puis ça forme effectivement comme un triangle. Là, c'est un peu débattu, il y en a qui disent que c'est plutôt un rectangle, mais c'est vraiment au centre du lac que ça se passe. Donc, à cet endroit, il y aurait eu plusieurs disparitions d'humains, mais aussi des disparitions de bateaux, de navires, et des crashs d'avions. Tu sais, il y a énormément de bateaux et de navires qui ont disparu au fil des années. Le premier, c'était le Griffon, qui a disparu en 1679. Mais comme je vous ai dit, il y en a eu beaucoup, beaucoup d'autres après. Même qu'il y en a qui appellent ça le cimetière du lac Michigan. Un autre exemple, en juin 1950, il y a un avion qui transportait 50 passagers de New York à Minneapolis qui a disparu. Par contre, contrairement au vol là, 370 là, Air Malaysia, dans ce cas-ci, il y a quand même des restes humains et des petits bouts d'avions qui ont été retrouvés dans le coin du lac Michigan parce que c'est là qu'il a disparu. Fait qu'on sait que ça s'est passé là, puis on sait il est où l'avion, tandis que dans le vol 370, c'est comme si on n'a aucune idée d'où est rendu l'avion, là, d'où est passé l'avion. Mais ce qui est weird dans cette histoire-là, c'est que c'est vraiment juste des petits bouts d'humains qui ont été retrouvés. Là. Il n'y avait rien de plus gros qu'une main, donc des os, des oreilles, des mains. Et même les bouts d'avion qui ont été retrouvés, c'est des bouts comme ça. Là. Ça de gros, c'est tout petit, la grosseur d'une main. Il n'y a rien de très gros, des grosses parties d'avion qui ont été retrouvées. Encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé, mais il faut dire qu'il n'y avait pas une température idéale au moment du vol. Fait qu'il y avait des orages. C'était pas une température pour prendre l'avion du tout. Fait que ça a pu être... un crash d'avion dû à la température, aussi peut-être que l'avion s'est fait frapper par la foudre, ça c'est possible, puis qu'il a tout simplement explosé. Ou bien, ceux qui croient au paranormal, il y en a qui croient que l'avion se serait fait capturer par des extraterrestres. Et on pense ça parce que la soirée de la disparition de l'avion, soit le 23 juin 1950, il y a deux policiers en service qui auraient vu des lumières très étranges dans le ciel, des lumières rouges qui étaient non identifiées. D'ailleurs, il y a un autre événement très mystérieux qui a eu lieu au-dessus du lac Michigan. Là, il y a même un épisode de Unsolved Mysteries sur Netflix consacré à cette histoire-là. En fait, le 8 mars 1994, il y a plus de 300 personnes étendue sur 42 comtés différents au Michigan, qui auraient vu des phénomènes non identifiés dans le ciel. Donc ça ressemblait à des lumières de Noël dans le ciel qui allumaient et s'éteignaient. C'est comme s'il y avait 5-6 objets là, en forme cylindrique, justement, qui changeaient de couleur, puis qui... Ça dit « flickering », là, qui vacillait un peu la lumière. Puis encore à ce jour, là, bon, il y a des explications au phénomène, mais encore à ce jour, on n'est pas convaincu de ce qui est arrivé. Pour revenir à notre fameux Stephen Kubacki, malheureusement, c'est pas mal tout. Après qu'il soit revenu, là, il a écrit un livre, là, « Meta-Mathematical Foundations of Existence, Gödel, Quantum, God and Beyond », fait que c'est un peu de la métaphysique. Il y a aussi un site web où il répond des questions, il décrit son parcours, en fait, ce qu'il a vécu en quelques lignes, là, à peine. Et il y a même une section FAQ, là, Q&A, puis à chaque fois, il répond que il va répondre à ses questions dans son prochain livre. Mais là, il demande sur son site web de lui donner de l'argent pour pouvoir publier son livre. Puis il dit qu'après toutes ces années, il se rappelle enfin de ce qu'il a vécu. Puis il va le dire dans son livre. Fait qu'on n'a pas de réponse, puis il va le dire dans son livre, malheureusement. On va garder l'œil ouvert là-dessus. Là, je vais vous tenir au courant. Peut-être qu'à la sortie de son livre, je vais le lire, puis je vais faire une partie 2 à cette vidéo. Mais apparemment, selon lui, c'est vraiment plus weird qu'on croit. Moi, ça m'a fait penser cette histoire-là à toutes mes histoires de Missing 411. Ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos sur le sujet. D'ailleurs, si vous voulez que j'en refasse, dites-le-moi en commentaire. Mais ça m'a vraiment fait penser à ça, puis moi, vous savez comment j'adore ça. Fait que voilà pour cette vidéo. Je vous l'avais dit que c'était une vidéo plus courte que d'habitude, mais des fois, ça fait du bien, là, d'écouter des petites vidéos courtes ici et là, là, c'est plus rapide que s'investir dans une vidéo d'une heure et demie. On va se voir la semaine prochaine pour un autre Victoria en studio. Et la semaine d'après, je prends off, fait qu'on va se voir la semaine d'après, donc dans 2 semaines. Joyeux Noël, profitez de vos vacances, reposez-vous, lisez mes livres, regardez mes vidéos, puis mangez, buvez, profitez de votre famille, de vos amis et de vous. Faites-vous plaisir, je vous souhaite du bonheur, de la santé surtout, c'est le plus important, et beaucoup d'amour. Et ben on se dit à la semaine prochaine. Over and out.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.